Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Par la fête de la Toussaint hier, la liturgie nous a fait contempler la gloire de l'Église triomphante où nos frères les saints voient Dieu face à face. Nous avons imploré leur intercession afin que nous puissions les rejoindre au terme de notre vie terrestre. Aujourd'hui, la liturgie dirige nos regards vers l'Église souffrante afin que nous puissions secourir nos frères par nos prières et nos bonnes œuvres. Cette Église souffrante n'est autre que ce qu'on appelle habituellement le purgatoire. Posons-nous quelques questions à ce sujet. Le purgatoire existe-t-il ? L'Église a toujours enseigné l'existence du purgatoire. Elle s'appuie sur une citation de la Sainte Écriture au deuxième livre des Maccabées qui dit que c'est une sainte et salutaire pensée que de prier pour les défunts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Or, ceux qui sont au paradis n'ont pas besoin de prière, puisqu'ils sont parfaitement heureux, et ceux qui sont en enfer n'en ont pas besoin non plus, puisqu'ils ne peuvent être délivrés de leurs péchés. Il y a donc un lieu où les âmes sont retenues par leurs péchés, mais peuvent en être délivrées. Les pères de l'Église ont toujours enseigné l'existence du purgatoire. Ne citons que saint Grégoire de Nice au IVe siècle. Voici ce qu'il dit. Celui qui est dans l'amitié du Christ et qui n'a pas achevé de se purifier de ses péchés en ce monde, en sera purifié au sortir de cette vie dans les flammes du purgatoire. Nous l'affirmons comme une vérité dogmatique et nous le croyons. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, donne une explication théologique à l'existence du purgatoire que nous pouvons résumer ainsi. Le pécheur manque à l'amitié pour Dieu et commet envers lui une injustice par sa désobéissance. L'amitié sera réparée par la contrition et le ferme propos, mais la justice divine demande une compensation. Ce sera la peine due au péché. Après le pardon, elle doit être subie soit sous forme de pénitence volontaire en cette vie, soit sous forme de purification obligatoire dans l'autre. Au XVe siècle, pape Eugène IV, dans la bulle « Laetentur Coeli », définit d'une manière infaillible la doctrine sur le purgatoire. Si les fidèles vraiment repentants meurent dans la charité divine avant d'avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence aux péchés commis et aux omissions, leurs âmes, sont purifiées après la mort par les peines du purgatoire. Et pour le soulagement de ces peines, les suffrages des vivants leur servent efficacement, c'est-à-dire les sacrifices des messes, les prières, les aumônes et les autres œuvres pies que les fidèles ont coutume d'offrir pour les autres fidèles selon les pratiques de l'Église. L'existence du purgatoire est donc une vérité dogmatique et le nier, dit saint Thomas, c'est parler contre la justice divine. C'est donc une erreur et une erreur contre la foi. Le Concile de Trente réaffirmera au XVIe siècle, sous une forme négative, la nécessité pour le pécheur pénitent de satisfaire pour la peine temporelle due à ses péchés, soit ici-bas, soit dans le purgatoire. Pour bien comprendre la vie des âmes au purgatoire, les théologiens tirent de ces enseignements trois principes fondamentaux. Le premier, les âmes du purgatoire sont dans trois états en même temps. Le premier état, l'état de grâce. Elles sont libérées de la culpabilité du péché. Il n'y a de barrière entre elles et Dieu que les peines qu'elles souffrent et retardent la satisfaction de leur désir de voir Dieu. Deuxième état, elles sont en état de terme, c'est-à-dire elles ne peuvent plus intervenir dans leur destinée. Ce que sainte Catherine de Gênes explique ainsi. Étant affermies en la charité, elles ne peuvent en dévier par aucun défaut et n'ont d'autre volonté et désir que la pure volonté du parfait amour. Elles ne peuvent en être séparées en quoi que ce soit. Elles ne peuvent ni commettre de péché, ni mériter en s'en abstenant. Elles sont dans une paix incomparable, dit la sainte, qui n'est surpassée que par celle des saints du ciel. Elles sont si satisfaites des dispositions divines à leur égard qu'elles ne peuvent penser ni à leur profit personnel, ni à leur souffrance. Par conséquent, elles ne voient pas qu'elles souffrent pour expier leurs péchés. Elles ne peuvent se dire, par exemple, « J'ai commis tel et tel péché pour lesquels je mérite d'être ici » ou « Si je les avais évités, je serais maintenant au ciel. » Ce retour sur elle-même, dit la sainte, serait une imperfection active qui ne peut exister dans l'état de charité parfaite dans laquelle sont ces âmes. Troisième état, elles sont dans un état de purification. L'âme est soumise à deux peines en purgatoire, dit saint Thomas. La peine du dent, c'est-à-dire l'ajournement de la vue de Dieu, et la peine du feu. Ces deux peines surpassent toutes les souffrances d'ici-bas et purifient l'âme. L'ajournement de la vue de Dieu est la plus grande de ces souffrances, car, dit saint Thomas, plus une chose est désirée, plus son absence est désagréable. Or, après la mort, Dieu excite dans les âmes justes le désir le plus intense qui serait réalisé si rien ne venait y faire obstacle. Donc, cet ajournement leur cause la plus grande souffrance. Quant au feu du purgatoire, sainte Catherine de Gênes explique son effet purificateur en le comparant à la purification de l'or. Plus l'or, dit-elle, contient d'alliage, plus il doit être purifié. Il est fondu par le feu qui détruit toutes les scories. Quand toutes les scories sont détruites, le feu n'a plus d'action sur lui, car seules ses impuretés peuvent être consumées. Ainsi en est-il du feu divin dans l'âme. Dieu la retient dans les flammes jusqu'à ce que chaque tâche soit dévorée. L'âme atteint alors la plus haute perfection dont elle est capable et elle peut se reposer complètement en Dieu. Nous avons du mal à comprendre, mes frères, que la joie puisse être unie à la souffrance. C'est pourtant une réalité que sainte Catherine de Gênes explique ainsi. Les âmes du purgatoire, dit-elle, se trouvent si heureuses d'être placées sous la divine dépendance qu'on ne peut pas dire que leur peine soit une souffrance. Mais il est vrai qu'elles endurent des tourments qu'aucune langue ne peut décrire. Pour illustrer tout ce que nous venons de dire, laissons parler une âme du purgatoire. Les faits que je vais citer se sont passés à Foligno en Italie en 1859 et ont fait l'objet d'une enquête canonique par l'évêque qui a conclu à l'authenticité de ces faits. Le 4 novembre 1859, mourut au couvent des franciscaines de Foligno, sœur Thérèse, qui était maîtresse des novices et s'occupait du vestiaire des sœurs avec sœur Anna Félicie. Le 17 novembre, cette dernière entendit des gémissements dans le vestiaire. Elle va voir, elle ne voit personne. Elle commençait à avoir peur quand elle entendit une voix plaintive qui disait « Ô mon Dieu, que je souffre !» Elle reconnut la voix de sœur Thérèse et distingua son ombre qui se dirigeait vers la porte. Arrivée là, elle s'écria avec force « Voici un témoignage de la miséricorde de Dieu !» Elle frappa le panneau le plus élevé de la porte, y laissant creuser dans le bois calciné l'empreinte la plus parfaite de sa main droite, puis elle disparut. Sœur Thérèse était morte de peur. Elle appela au secours et toute la communauté s'empressa autour d'elle et constata la terrible empreinte avec l'odeur de brûlé. Toutes les sœurs se rendirent au chœur pour prier et faire pénitence pour leurs sœurs. La nouvelle se répandit le lendemain et suscita un élan de charité dans toutes les communautés de la ville. Le 18 novembre, sœur Anna Félicie était bien décidée à faire disparaître l'empreinte, quand soudain, sœur Thérèse lui apparut. « Tu ne dois pas enlever ce prodige qui a été ordonné par Dieu pour l'enseignement et l'amendement de tous. Par un juste jugement, j'ai été condamnée à subir 40 ans de purgatoire à cause des faiblesses que j'ai eues à l'égard de quelques sœurs à propos de la pauvreté. Je te remercie et tous ceux qui ont prié pour moi. Le Seigneur a daigné appliquer toutes vos prières uniquement à mon âme. » Le 19, sœur Thérèse lui apparut de nouveau et lui dit d'une voix joyeuse, « Je m'en vais dans la gloire, soyez courageuse à souffrir. Adieu. » Le 23 novembre, l'évêque qui procéda à l'enquête canonique fit ouvrir le tombeau de sœur Thérèse. L'empreinte calcinée de la porte fut trouvée exactement conforme à la main de la défunte. La porte avec l'empreinte fut conservée avec vénération dans le couvent. Cet exemple nous illustre, mes frères, la réalité du feu du purgatoire, la rigueur de la justice divine. Sœur Thérèse était une bonne religieuse. Ses faiblesses à l'égard de quelques novices nous semblent des broutilles. Et pourtant, il lui fallait 40 ans de purgatoire pour en être purifiée. Nous voyons aussi à l'œuvre la communion des saints. Grâce à cet élan de prière, les 40 ans ont été réduits à 15 jours. On peut donc tirer deux considérations importantes de tout cela. Premièrement, l'expiation étant très grave et d'une rigoureuse exactitude, nous devons éviter ici-bas les moindres fautes et nous efforcer de satisfaire pour les fautes pardonnées. Alors, interrogeons-nous, mes frères. Est-ce que nous avons coupé avec les sources de péché? Est-ce que nous sommes fidèles à nos résolutions? Où en sont nos pénitences, nos bonnes œuvres? Comparé à cette sœur, notre purgatoire ne risque-t-il pas de se compter en siècles si nous ne commençons pas aujourd'hui sérieusement à nous corriger et à faire pénitence? Deuxièmement, nous avons un devoir de charité envers nos défunts. N'est-ce pas encourageant de pouvoir les soulager et, lorsqu'ils seront au ciel, d'avoir de nombreux intercesseurs pour nous aider à tendre à la sainteté? Pour y arriver, écoutons encore un conseil d'une âme du purgatoire. Le moyen infaillible, dit cette âme, d'arriver vite à la sainteté, c'est l'amour uni à la souffrance. Commencez donc aujourd'hui cette vie de renoncement, de sacrifice et par-dessus tout d'amour que Jésus veut absolument de vous. Vous trouverez alors le calme et la paix. Demandons, mes frères, cette grâce à la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.